Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs de quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de la revue de presse et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. L'administration de Jakarta soutient la protection de l'environnement par un engagement de 30 par 30. WWF tiendra la 10e heure de la Terre. L'Indonésie et le Cambodge ont immédiatement signé le traité de Langpo. L'Afrique et le Moyen-Orient sont les marchés d'Al-Cita de l'Indonésie. Et enfin, 11 experts archéologiques de la Palestine apprennent en Indonésie. Voici le journal complet. En ce qui concerne la 10e édition annuelle de l'heure de la Terre qui se tiendra dans le monde entier, y compris en Indonésie, le 25 mars 2017, World Wildlife Indonesia appelle toutes les parties prenantes, y compris le gouvernement indonésien, à participer activement à la réduction de l'empreinte écologique. En réponse à cet appel, le vice-gouverneur de l'aménagement du territoire et de l'environnement de Jakarta, Oswar Muazzin Mwangkasa, a confirmé jeudi que l'administration de Jakarta, avec les parties prenantes et les entreprises privées, s'engageait à soutenir la durabilité de la nature avec les objectifs clairs par l'engagement 30 par 30. Dans cet engagement, les immeubles de grande hauteur à Jakarta devraient réduire l'utilisation de l'énergie et les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 30% en 2030.
Bedanya adalah kita menetapkan secara tegas targetnya.
La différence est que nous fixons fermement les cibles. En 2030, tous les gratte-ciels de Jakarta pourraient réduire de 30% leur consommation d'eau, leur consommation d'énergie et leur émission de gaz à effet de serre. Oswar Muazzin a expliqué, l'engagement 30 par 30 est en ligne avec le règlement numéro 30/2012 sur le bâtiment vert disant que les immeubles de grande hauteur avec plus de 8 étages doivent appliquer le schéma de construction écologique. Oswar a ajouté, bien que le règlement ait été publié en 2012 jusqu'en 2015, il n'y avait pas eu d'action significative pour soutenir la politique. La 10e heure de la Terre se tiendra dans le monde entier, y compris en Indonésie. Le mouvement mondial pour éteindre les lumières dans les maisons et les bâtiments pendant une heure a pour le thème « Briller une lumière sur l'action climatique de moment à mouvement » où le public est invité à protéger plus activement la nature. Outre ce thème, Dewi Satriani, responsable de la campagne et de la mobilisation du WWF Indonesia, a déclaré que l'heure de la Terre en Indonésie organisera également la campagne 1 juta aksi ou 1 million actions où la communauté de l'heure de la Terre en Indonésie collectera 1 million de t-shirts qui seront transformés en sacs afin de réduire l'utilisation de sacs en plastique.
Dan tahun ini serentak bersama-sama mereka bikin aksi satu aksi namanya 1 juta aksi.
Cette année, les communautés feront une action appelée 1 juta aksi où nous collecterons 1 million de t-shirts qui seront transformés en sacs à provisions. Ces sacs seront distribués sur les marchés traditionnels et les supermarchés pour remplacer les sacs en plastique. Ainsi, ces sacs réutilisables réduiront l'utilisation de sacs en plastique parce que l'Indonésie veut être libre de déchets en 2020. Dewi Satriani a déclaré que l'heure de la Terre invite généralement le public et le gouvernement à aller au-delà du moment d'éteindre les lumières en action réelle pour l'environnement par le changement du style de vie écologique. En outre, Dewi a ajouté, le nombre de villes en Indonésie qui participeront à la 10e heure de la Terre augmente à 70 villes de 50 villes l'année précédente. Le gouvernement indonésien élargit la coopération de l'accord d'évitement de double imposition ou P3B avec d'autres pays de l'ASEAN. Cela se fait par le gouvernement pour mettre en œuvre les questions prioritaires de l'Indonésie en tant que président du Forum sur la fiscalité de l'ASEAN, AFT. Le chef du centre de la politique budgétaire de l'ASEAN, de la politique fiscale du ministère des Finances, Goro Ekanto, lorsqu'il a rencontré au ministère des Finances, a déclaré que l'expansion de l'accord connu sous le nom de la traité de l'impôt sera faite avec le Cambodge. Le Cambodge a le système fiscal similaire à l'Indonésie, à savoir l'existence des règles sur le secret bancaire qui était devenu en barrière de plan d'essence d'information. Cet accord est également le résultat d'une réunion tenue par le gouvernement d'Indonésie avec le Cambodge la semaine dernière, après qu'auparavant les deux pays ont mené la réunion mais n'a pas encore trouvé le point d'accord. Même selon le projet, cet accord sera signé lors de la réunion des ministres des Finances de l'ASEAN AFWM cette année à la fin de mars aux Philippines. Le vice-président de la commission en charge de la défense, des affaires étrangères, des communications et de la technologie de l'information et des renseignements, M. Hafiz, a dit « Les pays en Afrique et au Moyen-Orient sont la cible du marché du commerce du système principal d'armement défensif à l'autista produit par l'Indonésie. » Cette affirmation liée au plan du ministre du Commerce, Enggar Tias Tolu Kita, qui stimulera les volumes commerciaux, y compris l'exportation potentielle dans l'autista de l'Indonésie. Mutia a déclaré que la mise en œuvre du sommet de l'Association des États riverains de l'océan Indien, IORA, dont un sujet est sur la sécurité maritime, a un impact positif pour les produits de l'autista produits par l'Indonésie. Mutia a déclaré « L'une des sociétés de production de l'autista, PT-PAL, devrait se pencher sur les besoins maritimes nécessités par d'autres pays comme la flotte de navires et le système de radar. » Pendant ce temps, le chef de la division de marketing de PT-PAL, Iman Sulaiman, a révélé que PT-PAL collaborera avec les pays membres de IORA pour produire des navires en 2018. Iman a déclaré que la coopération avait été planifiée depuis 2 ans, mais elle est intensifiée à travers les réunions d'IORA en 2017. Certains pays qui ont soumis une offre de vente, à savoir le Sénégal, le Madagascar et le Mozambique, à travers l'entretien des fonctionnaires au niveau ministériel. 11 experts archéologiques palestiniens suivent la formation archéologique du directorat de la coopération technique du ministère des Affaires étrangères et du directorat général de la culture du ministère de l'Éducation et de la Culture. C'est ce qu'a affirmé le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade d'Indonésie à Amman, en Jordanie, Nico Adam, dans un communiqué reçu par l'agence de Nouvelles Antara récemment. Adam a expliqué, le programme de renforcement des capacités pour la Palestine a été organisé au nom de la formation internationale sur le tourisme et l'archéologie tenu au centre de la conservation à Borobudur, Yogyakarta, du 13 au 25 mars 2017. Selon lui, le but de ce programme est de partager des expériences et de donner l'occasion aux experts palestiniens pour enrichir leurs connaissances et compréhension sur les meilleures pratiques qui ont été faites par l'Indonésie dans le domaine de la préservation de la culture. Cette formation pourrait devenir un moyen d'échange d'idées, de l'expertise et de l'expérience entre l'Indonésie et la Palestine dans la préservation du patrimoine culturel comme partie des efforts visant à renforcer le développement économique du pays. Pendant ce temps, un archéologue qui travaille au Centre culturel de Jérusalem, Sherin Mahmoud, espère à pouvoir apprendre beaucoup d'expériences des archéologues indonésiens pour la conservation du patrimoine culturel qui est diversifié. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Chers amis, bonsoir. Voici la revue de presse. Nous commençons avec le journal Koran Sindo dans son éditorial mardi le 14 mars a écrit les importations du GPL continuent d'augmenter. Dans un proche avenir, le gouvernement va changer la façon de la distribution des subventions de GPL de 3 kg. Jusqu'à présent, la façon du don de la subvention n'est pas appropriée à travers le produit avec le système de distribution ouverte, si bien que n'importe quelle personne puisse acheter du GPL de 3 kg sur le marché. C'est-à-dire, les subventions sont mal orientées comme mesure anticipative. La subvention ne rentre plus aux produits, mais étant donnée directement aux personnes qui ont droit par intermédiaire d'une carte spéciale, en particulier pour les 40% des personnes avec les niveaux de bien-être le plus faible. Cependant, le journal Média Indonésia, dans son éditorial jeudi, le 16 mars, a écrit « Le voyage inutile des membres du Parlement ». Les protestations publiques contre la visite des membres du Parlement ont été faites plusieurs reprises, mais ces protestations ne sont jamais entendues. La critique est réémergée après autant que 30 membres du Parlement ont fait des visites de toutes en Allemagne et au Mexique depuis la semaine dernière. Le Forum indonésien pour la transparence budgétaire a estimé que l'argent public qui doit être sorti pour le financer pendant 6 jours dans des pays étrangers a atteint 8 milliards rupiah. En fait, il existe beaucoup de moyens plus efficaces pour pouvoir être faits par les membres du Parlement à tirer de l'information à l'étranger, comme l'utilisation de l'information électronique par la correspondance ou téléconférence. Selon Média Indonésia, pourtant, l'utilisation électronique comme e-vote en Allemagne sera supprimée. Ainsi, même des raisons d'étudier le système électoral, parce que l'Allemagne utilise pour le système électoral mélange, à savoir les districts et les proportions. De toute évidence, il est différent avec l'Indonésie qui adopte le système proportionnel ouvert. Il n'est pas exagéré si cette visite de travail à l'étranger est arrêtée provisoirement et les fonds sont retournés aux intérêts plus urgents. Nous finissons la revue de presse avec le quotidien Business Indonesia qui a écrit dans son éditorial lundi le 13 mars sur le projet de IKTP ne se produit plus. Le projet national de l'approvisionnement de carte d'identité électronique EID pour 5,9 trillion rupiah qui est corrompu et partagé à un certain nombre de fonctionnaires de l'État et de l'élite politique, a suscité la colère de nombreuses personnes. La colère publique n'avoue que le montant d'argent de la corruption qui atteint environ 2,3 trillions rupiah, mais aussi les complexités et les occupés associés à l'affaire administrative. Son effet est obtenu, même beaucoup de gens semblent être résidents illégaux parce qu'ils n'ont pas de carte d'identité jusqu'à ce qu'ils sont forcés de perdre leur droit politique dans l'élection régionale. La vieille carte d'identité ou KTP qui ont expiré ne peut pas être immédiatement faite une carte d'identité de remplacement sous forme de carte d'identité électronique. Parce que le nouveau système d'administration qui a encore tant de problèmes et d'obstacles. Business Indonesia a écrit, toutes les parties espèrent que le cas de méga corruption dans le projet d'acquisition EID peut être surmonté bien que possible par la Commission pour l'éradication de la corruption. Selon ce journal, la divulgation du cas de méga-corruption EID par la Commission devrait être une leçon très précieuse, ainsi que d'alerte précoce sur la nécessité de contrôle plus serré, tant de le financement et l'exécution des projets. Chers auditeurs, c'était la revue de presse pour ce soir. Chers amis longtemps, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons avec l'événement la première sortie dans l'espace pour un cosmonaute le 18 mars 1965. Relié à la navette Voskhod 2 par un cordon, le soviétique Alexei Leonov flotte pendant une quinzaine de minutes dans l'espace. Il est le premier homme de l'histoire à effectuer une sortie dans le cosmos. Le 3 juin de la même année, l'Américain Edward White réalisera une sortie similaire de 20 minutes. L'autre information est sur les pays arabes, sauf la Libye, ont terminé l'embargo pétrolier le 18 mars 1974. Le 17 octobre 1973, les pays arabes producteurs de pétrole commencent son embargo pétrolier contre les États-Unis et la Grande-Bretagne et d'autres pays qui vendent le pétrole à Israël. L'embargo est fait parce que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont fourni une aide militaire massive aux sionistes dans la guerre entre ce régime avec la Syrie et l'Égypte. En conséquence, les prix du pétrole deviennent plus élevés. Les pays occidentaux avaient de grandes difficultés à la suite de cet embargo et cette période est connue comme le choc pétrolier. Le 18 mars 1974, cet embargo a été retiré après le secrétaire d'État des États-Unis, Henry Kissinger, a réussi à négocier un accord de cessez-le-feu entre Israël et la Syrie. Cet incident a prouvé qu'en fait, les pays du Moyen-Orient ont une arme puissante pour faire pression des États-Unis et l'Occident en général afin de ne pas continuer à protéger le régime sioniste d'Israël. Nous finissons aujourd'hui avec l'événement « Le vol Adam Air a été révoqué sans opérationnel ». Adam Air était une compagnie aérienne indonésienne fondée en 2002 et basée à l'aéroport de Jakarta. À la suite de problèmes de sécurité, le gouvernement indonésien suspend l'autorisation de vol de la compagnie le 18 mars 2008 et lui donne 3 mois pour améliorer sa gestion. Révocation de licence d'exploitation. Ce sont les conséquences de l'accident d'avion et le nombre d'incidents a été marqué par la chute d'Adam Air au sud de Sulawesi, Majene, le 1er janvier 2007, tuant tous les passagers et l'équipage total de 102 personnes. En 2004, Adam Air n'était que la 7e compagnie sur le marché intérieur indonésien, dont elle détenait à peine 2%. 2 ans plus tard, elle s'était hissée au 3e rang derrière Garuda Indonesia et Lion Air, avec un peu plus de 14% de trafic aérien. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir. Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel du titre de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis, nous continuons notre émission avec la mise au point ayant pour le titre « Caledonian Sky va envoyer des experts pour aider la restauration des récifs coralliens ». Noble Caledonia, la société qui gère le navire Caledonian Sky, a exprimé ses excuses d'avoir détruit le récif corallien de Raja Ampat en Papouasie-Occidentale le 4 mars. Dans son site web officiel noblecaledonia.co.uk, le directeur général de Noble Caledonia, Tim Cochrane, a déclaré mercredi qu'il enverrait des experts pour travailler en collaboration étroitement avec des experts indonésiens pour restaurer le récif endommagé. Le navire Caledonia Sky, appartenant à la société britannique au drapeau Bahama, a jeté la barrière de corail sur l'île Cree le 4 mars dernier. Le navire a échoué à 12h41 heure locale. Le naufrage du navire a entraîné la destruction des récifs coralliens au-dessous dans une superficie de 13 522 m². En droit international, la partie responsable est l'État dont le drapeau est utilisé. Tim Khan a ensuite dit qu'il avait commencé à coopérer avec le gouvernement indonésien. Noble Caledonia a admis un sentiment de tristesse sur l'incident que son navire a échoué sur un récif de corail de Raja Ampat. En plus de l'envoi d'experts et de coopérer avec les autorités indonésiennes, ils ont également mis en place un fonds pour aider la récupération des récifs qu'ils avaient détruits. Le navire au drapeau de Bahama est dirigé par le capitaine Kate Michael Taylor. Ce navire transportait 102 touristes et 79 membres d'équipage. Noble Caledonia a dit que son capitaine était le capitaine d'un navire expérimenté et l'un des meilleurs dans le monde. Selon Tim Cochrane, c'est le premier incident pour la société Noble Caledonia depuis 25 ans de fonctionnement. D'autre part, le gouvernement indonésien a traité sérieusement le cas de la destruction des récifs coralliens par le bateau Caledonian Sky. Le premier député pour la coordination de la souveraineté maritime du ministère de coordination pour le transport maritime, Arif Hawass Groseno, mercredi le 15 mars à Jakarta, a dit qu'il va coopérer avec le ministère des Affaires étrangères pour demander une compensation aux Bahamas. L'aide du ministère des Affaires étrangères est nécessaire, compte tenu aucune ambassade de Bahamas en Indonésie, parce que l'Indonésie n'a pas de relation diplomatique avec ce pays du Commonwealth à l'Amérique du Sud. Cependant, le directeur général de la lutte contre la pollution et la dégradation de l'environnement du ministère de l'Environnement et des Forêts, Karliansa, a dit au journal Média Indonésia que le rétablissement de l'écosystème de Corail va prendre plus de 30 ans. Chers auditeurs, c'était la mise au point pour ce soir. En ce qui concerne la 10e édition annuelle de l'heure de la Terre qui se tiendra dans le monde entier, y compris en Indonésie, le 25 mars 2017, World Wildlife Indonesia appelle toutes les parties prenantes, y compris le gouvernement indonésien, à participer activement à la réduction de l'empreinte écologique. En réponse à cet appel, le vice-gouverneur de l'aménagement du territoire et de l'environnement de Jakarta, Oswar Muazzin Mwangkasa, a confirmé jeudi que l'administration de Jakarta, avec les parties prenantes et les entreprises privées, s'engageait à soutenir la durabilité de la nature avec les objectifs clairs par l'engagement 30 par 30. Dans cet engagement, les immeubles de grande hauteur à Jakarta devraient réduire l'utilisation de l'énergie et les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 30% en 2030.
Bedanya adalah kita menetapkan secara tegas targetnya.
La différence est que nous fixons fermement les cibles. En 2030, tous les gratte-ciels de Jakarta pourraient réduire de 30% leur consommation d'eau, leur consommation d'énergie et leur émission de gaz à effet de serre. Oswar Muazzin a expliqué, l'engagement 30 par 30 est en ligne avec le règlement numéro 30/2012 sur le bâtiment vert disant que les immeubles de grande hauteur avec plus de 8 étages doivent appliquer le schéma de construction écologique. Oswar a ajouté, bien que le règlement ait été publié en 2012 jusqu'en 2015, il n'y avait pas eu d'action significative pour soutenir la politique. La 10e heure de la Terre se tiendra dans le monde entier, y compris en Indonésie. Le mouvement mondial pour éteindre les lumières dans les maisons et les bâtiments pendant une heure a pour le thème « Briller une lumière sur l'action climatique de moment à mouvement » où le public est invité à protéger plus activement la nature. Outre ce thème, Dewi Satriani, responsable de la campagne et de la mobilisation du WWF Indonesia, a déclaré que l'heure de la Terre en Indonésie organisera également la campagne 1 juta aksi ou 1 million actions où la communauté de l'heure de la Terre en Indonésie collectera 1 million de t-shirts qui seront transformés en sacs afin de réduire l'utilisation de sacs en plastique.
Dan tahun ini serentak bersama-sama mereka bikin aksi satu aksi namanya 1 juta aksi.
Cette année, les communautés feront une action appelée 1 juta aksi où nous collecterons 1 million de t-shirts qui seront transformés en sacs à provision. Ces sacs seront distribués sur les marchés traditionnels et les supermarchés pour remplacer les sacs en plastique. Ainsi, ces sacs réutilisables réduiront l'utilisation de sacs en plastique parce que l'Indonésie veut être libre de déchets en 2020. Dewi Satriani a déclaré que l'heure de la Terre invite généralement le public et le gouvernement à aller au-delà du moment d'éteindre les lumières en action réelle pour l'environnement par le changement de style de vie écologique. En outre, Dewi a ajouté, le nombre de villes en Indonésie qui participeront à la 10e heure de la Terre augmente à 70 villes de 50 villes l'année précédente. Le gouvernement indonésien élargit la coopération de l'accord d'évitement de double en position ou P3B avec d'autres pays de l'ASEAN. Cela se fait par le gouvernement pour mettre en œuvre les questions prioritaires de l'Indonésie en tant que président du Forum sur la fiscalité de l'ASEAN, AFT. Le chef du centre de la politique budgétaire de l'ASEAN de la politique fiscale du ministère des Finances, Goro Ekanto, lorsqu'il a rencontré au ministère des Finances, a déclaré que l'expansion de l'accord connu sous le nom de la traité de l'impôt sera faite avec le Cambodge. Le Cambodge a le système fiscal similaire à l'Indonésie, à savoir l'existence des règles sur le secret bancaire qui était devenu en barrière de plan d'échange d'informations. Cet accord est également le résultat d'une réunion tenue par le gouvernement d'Indonésie avec le Cambodge la semaine dernière, après qu'auparavant les deux pays ont mené la réunion mais n'ont pas encore trouvé le point d'accord. Même selon le projet, cet accord sera signé lors de la réunion des ministres des Finances de l'ASEAN AFWM cette année à la fin de mars aux Philippines. Le vice-président de la commission en charge de la défense, des affaires étrangères, des communications et de la technologie de l'information et des renseignements, M. Hafiz, a dit « Les pays en Afrique et au Moyen-Orient sont la cible du marché du commerce du système principal d'armement défensif à l'autista produit par l'Indonésie. » Cette affirmation liée au plan du ministre du Commerce, Enggar Tias Tolu Kita, qui stimulera les volumes commerciaux, y compris l'exportation potentielle dans l'autista de l'Indonésie. Mutia n'a déclaré que la mise en œuvre du sommet de l'Association des États riverains de l'océan Indien, IORA, dont un sujet est sur la sécurité maritime, a un impact positif pour les produits de l'autista produits par l'Indonésie. Mutia a déclaré « L'une des sociétés de production de l'autista, PT PAL, devrait se pencher sur les besoins maritimes nécessités par d'autres pays comme la flotte de navires et le système de radar. » Pendant ce temps, le chef de la division de marketing de PT PAL, Iman Sulaiman, a révélé que PT PAL collaborera avec les pays membres de l'IORA pour produire des navires en 2018. Iman a déclaré que la coopération avait été planifiée depuis 2 ans, mais elle est intensifiée à travers des réunions d'IORA en 2017. Certains pays qui ont soumis une offre de vente, à savoir le Sénégal, le Madagascar et le Mozambique, à travers l'entretien des fonctionnaires au niveau ministériel. 11 experts archéologiques palestiniens suivent la formation archéologique du directorat de la coopération technique du ministère des Affaires étrangères et du directorat général de la culture du ministère de l'Éducation et de la culture. C'est ce qu'affirmait le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade d'Indonésie à Amman, en Jordanie, Nico Adam, dans un communiqué reçu par l'agence des nouvelles Antara récemment. Adam a expliqué « Le programme de renforcement des capacités pour la Palestine a été organisé au nom de la formation internationale sur le tourisme et l'archéologie tenu au centre de la conservation à Borobudur, Yogyakarta, du 13 au 25 mars 2017. » Selon lui, le but de ce programme est de partager des expériences et de donner l'occasion aux experts palestiniens pour enrichir leurs connaissances et compréhension sur les meilleures pratiques qui ont été faites par l'Indonésie dans le domaine de la préservation de la culture. Cette formation pourrait devenir un moyen d'échange d'idées, de l'expertise et de l'expérience entre l'Indonésie et la Palestine dans la préservation du patrimoine culturel comme partie des efforts visant à renforcer le développement économique du pays. Pendant ce temps, un archéologue qui travaille au Centre culturel de Jérusalem, Sherin Mahmoud, espère à pouvoir apprendre beaucoup d'expériences des archéologues indonésiens pour la conservation du patrimoine culturel qui est diversifié.
La voix de l'Indonésie, vive la dignité.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous introduisons la colline Pentulu Indah qui se trouve en province de Java Central. Donc, restez toujours avec nous. Le service mondial de Radio Indonesia, La Voix d'Indonésie. Chers auditeurs, si vous aimez les attractions naturelles et vous êtes en train de visiter Java Central, essayez de payer une visite à Kebumen, car Kebumen a beaucoup d'attraits touristiques naturels intéressants, en particulier le tourisme littoral. Mais en dépit de plages attrayantes, cette fois nous allons présenter un intérêt touristique connu à Kebumen, à savoir la colline Pentulu Indah. La colline Pentulu Indah, qui est souvent abrégée en colline PI, offre un paysage naturel très beau de Kebumen. La colline Pentulu Indah est célèbre pour le lever du soleil. Cet emplacement est parfait pour profiter des chauds rayons du soleil avec une toile de fond de montagne double Sumbing Sindoro. La colline Pentulu Indah est située à une altitude d'environ 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Quand le soleil a commencé à lever, si le temps est ensoleillé, vous pouvez voir les vues de la forêt au vallée de la rivière Lukulo qui est enveloppée dans le brouillard. Le sommet de la colline Pentulu Indah est assez spécieux parce que vous puissiez planter une tente et camper ici. La colline Pentulu Indah est très appropriée pour se détendre pendant un moment, car en plus de beaux paysages, l'accès pour y parvenir est trop facile. Du carré de Kebumen, prenez la direction vers le marché Mertokondo, alors vous pouvez suivre les panneaux en direction du tourisme naturel de la colline Pentulu Indah. Si vous êtes arrivé à la zone de forêt de Pang avec une voûte qui a le wisata à la Pentulu Indah, cela signifie que vous êtes arrivé à l'endroit. Si vous voulez monter au sommet de la colline, la piste est courte, mais pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais exercé, il aurait drainé votre force. La colline Pentulu Indah est située dans les montagnes Paras, précisément au village d'Aka, le district Karang Sambung, la résidence Kebumen, Jawa Central. La colline est d'environ 21 km de la ville Kebumen, à environ 35 minutes de voyage. Pour explorer la colline Pentulu Indah, vous ne payez que 5000 rupiah et parking 2000 rupiah. Au sommet de la colline, il y a un poste d'observation qui est devenu un lieu de prédilection pour les jeunes à prendre des photos. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant encore. Merci de votre fidélité. À demain.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Serviteur, voici l'Indonésie en couleurs pour ce soir ayant pour titre Batik Wonogiren devient invité dans son propre région. La petite ville dans le coin sud du centre de Java est une ville culturelle. En outre, la ville a aussi les biens culturels des mains de filles de la région qui peuvent rivaliser à l'échelle nationale, à savoir le batik à la main originaire de Wonogiri, connu sous le nom le batik Wonogiren. Malheureusement, la présence de batik typique de Wonogiri n'est pas encore connue dans son propre région. Selon l'histoire, le batik Wonogiren commence à être reconnu aux années 1990 quand un autre fonctionnaire du palais de Pura Mangkunegaran, Solo, a donné la tâche aux courtisans pour effectuer la tâche dans la région de Tirtomoyo Wonogiri. Le courtisan est une personne qui a travaillé dans le palais. Donc, pas étonnant si au début le batik Wonogiren se réfère au batik du palais Solo. Ces motifs ne sont pas très différents de motifs de batik Solo. Au fil du temps, le batik Wonogiren a ses propres caractéristiques, à savoir le motif des fractions. Le motif fractionnel a été créé accidentellement. Auparavant, si la personne qui fait le batik veut teindre ou nyogal le tissu de batik, doit aller à Solo en utilisant la bicyclette ontel. Dans son voyage, le batik bouge toujours suivant le mouvement de la moto. Cela a abouti à la cire sur le tissu et rompu et couvrait tout le tissu de batik. Après être produit, ce fragment rend le tissu à beaucoup de motifs fractionnels. Depuis les années 2000, la fabrication du batik a développé lentement en conformité avec le caractère et les règles de la vie dans la région, y compris la façon dont les gens vivent avec les coutumes comme une manifestation de confiance. L'emplacement géographique et les circonstances naturelles environnantes affectent également la diversité de la conception de motifs. comme les motifs de feuilles de manioc, de noix de caillou, l'eau, les éléphants et ainsi de suite. Cependant, bien que le motif de batik onogren est développé, le batik onogren est encore comme invité dans sa propre maison. De nombreux facteurs provoquant le batik onogren n'est pas encore connu aux gens de l'onogren public. Selon le chef de la section culturelle du service de la culture, du tourisme, des jeunes et des sports de Wonogiri, Eko Sunarsono, il existe plusieurs facteurs. Le principal facteur, à savoir le manque d'appréciation ou de reconnaissance publique envers des valeurs culturelles contenant dans le batik Wonogiri. Eko croit, s'il y a l'appréciation élevée, les gens de Wonogiri sont heureux de l'acheter. Un autre facteur est le prix relativement élevé a également contribué à faire le batik onogiren moins souhaitable. Il doit y avoir un effort commun et durable entre le gouvernement de la résidence, les employeurs et la communauté, de sorte que le batik onogiren est connu par la communauté de Onogiri largement. Parce que, après avoir connu, le public va aimer et se sentir profité, jusqu'à finalement les gens seront fiers de porter le batik 100% onogiri. C'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Serge Ritor, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers les amis de la Voix de l'Indonésie dans quatre coins du monde, bonsoir. Voici le magazine musical pour l'édition de samedi. On va introduire la diva indonésienne s'appelle Rosa. Pour ouvrir notre rencontre, voici sa première chanson intitulée « Indiscipliné ». Bonne écoute.
Telah lama tak nampak
Rosa Indiva provenant de Sumedang alunan kompat Sri Rosa Roslaina Handayani ekonu pour la chanson Tong d'amour en 1996 et un single intitulé En discipline en 2000. En 2017, Rosa tiendra un second concert intitulé The Journey of 21 Years Dazzling vise à célébrer le voyage de sa carrière pendant 21 ans avec une myriade de réalisations et de prix qui ont été obtenus, Rosa est plus confiante pour retenir un seul concert cette année. Bon, chers auditeurs, écoutons maintenant la chanson suivante de Rosa intitulée « J'attends ». Bonne écoute.
Selalu di sini untuk menunggumu. Cintaiku, ku berharap kau kelak kan cintai aku saat kau telah tak bersama kekasihmu. Ku lakukan semua agar kau cintaiku. Haruskah ku
Chers auditeurs, c'était la chanson de Rosa intitulée « J'attends ». Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique @french@voi.co.id et nous vous invitons également à rejoindre La Voix d'Indonésie sur Facebook Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter @voiindonesia. Chers auditeurs, la carrière de Rosa continue à augmenter. Ainsi, elle a gagné divers prix précieux comme la meilleure femme MTV Indonesia en 2000, Artiste exclusif MTV en 2005, meilleur chante solo pop du prix AMI en 2001, en 2005, en 2008 et en 2010 et d'autres prix. En outre, Rosa a gagné le prix de la Malaisie et de Singapour. Serge Ritter, la chanson entre les jetons est assez populaire en 2011. Pas seulement une seule chanson d'une belle femme qui a été appelée comme un moment au char qui a été bien acceptée sur le marché, mais la chanson de la bande sonore qui a été chantée sont également devenues hits comme la chanson Verser de l'amour qui est devenue la bande originale du film avec le même titre en 2008. En 2017, Rosa est confiée à nouveau pour chanter une chanson de la bande sonore du film intitulée London Love Story 2 qui est lancée le 3 mars. Donc la chanson intitule « L'amour dans ma vie ». Bon, serviteur, avant de terminer notre programme, voici sa dernière chanson intitulée « Verser de l'amour ». Bonne écoute et à bientôt.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Voix de l'Indonésie, vive la dignité.
ku tahu ku hanya bisa memimpikanmu untuk menjadi belahanku. Namun kaulah yang menghidupkan jiwaku. Walau ku sadari sepenuh hati keberadaanmu bukanlah hanya untuk diriku, namun kaulah yang menyalakan gairahku. Dirimu satu-satunya sang penghuni jagat hayalku, memenuhi
c'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta. Ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.